Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Élysée a nommé un nouveau monsieur retraite. Laurent Pietraszewski, député de La République En Marche du Nord, remplace Jean-Paul Delevoye qui a démissionné. Son portrait avec Rosalie Lafarge.
Suite du procès en appel pour fraude fiscale des époux Balkany à Paris, seule à la barre. Isabelle Balkany a multiplié les déclarations intempestives. Compte rendu à suivre.
Un vote historique se prépare contre Donald Trump. La Chambre des représentants devrait mettre en accusation ce soir le président des États-Unis, soupçonné d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès.
En Algérie, certaines détentions provisoires deviennent bien longues. 200 personnes ont été arrêtées depuis le mois de juin. Certaines, liées au mouvement anti-régime, attendent toujours leur procès.
Et la question du jour ce matin, Guillaume.
Mobilisation sociale, quelle marge de manœuvre ont les organisations syndicales? Nous poserons la question à un professeur de sociologie, Jean-Michel Denis.
Il s'appelle Laurent Pietraszewski, il est député LREM du Nord et c'est lui qui a été choisi pour succéder à Jean-Paul Delevoye. On l'a appris cette nuit, il est le nouveau secrétaire d'État chargé des retraites. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
C'est un homme politique méconnu du grand public, Emmanuel Macron a choisi.
Oui, mais pas méconnu de ses collègues à l'Assemblée nationale où il est porte-parole du groupe La République En Marche, où il a été rapporteur de la loi travail et où il était jusqu'ici pressenti pour porter le texte des retraites, pour être là encore rapporteur du projet. À 53 ans, Laurent Pietraszewski fait partie, comme on dit, des macronistes de la première heure. Il commence la politique avec En Marche en 2016, sans jamais avoir été encarté avant. Pardonnez-moi. Avant, ce spécialiste des ressources humaines a travaillé au sein du groupe Auchan dans la gestion de carrière et le recrutement. C'est donc quelque part un expert des relations sociales, mais dans le privé, dans l'entreprise.
Et finalement, c'est un peu l'inverse de Jean-Paul Delevoye, Laurent Pietraszewski.
L'inverse dans le sens où l'un est un pur produit politique qui connaît par cœur la négociation sociale au niveau national. L'autre est un peu novice en la matière. Faut-il y voir le signe que le Premier ministre reprend franchement et complètement la main sur le dossier? Sûrement, même si les discussions doivent reprendre à Matignon cet après-midi. On n'attend pas de Laurent Pietraszewski qu'il les mène. C'est Édouard Philippe qui s'en occupe.
Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. Ce nouveau monsieur retraite a donc du pain sur la planche. Hier encore, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France contre le projet de réforme. La CGT a annoncé 1,8 million de manifestants dans tout le pays, soit plus que le 5 décembre. Le ministère de l'Intérieur a lui compté 615 000 personnes, moins selon lui que lors de la première journée de mobilisation. Dans la rue, en tout cas, les manifestants n'étaient pas là que pour protester contre la réforme. Le ras-le-bol est plus large. Catherine Napétillon a suivi le cortège parisien.
C'est un cortège dense qui a parcouru hier Paris, cheminots, bibliothécaires, agents des impôts, avocats et aussi beaucoup d'enseignants particulièrement mobilisés. Sébastien est instituteur en banlieue parisienne.
J'ai un travail qui est de plus en plus important, les primes qui ne sont même pas payées, un salaire pour un cadre A de la fonction publique qui est au rabais et je me retrouve en plus avec une retraite amputée. Ma femme est également enseignante, on est doublement touchés dans cette réforme et c'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui.
Dans le cortège, Julien, salarié de l'INSEE, distribue une analyse des retraites. C'est le moyen qu'ont trouvé les statisticiens grévistes de se mobiliser.
On sait ce qu'a publié la statistique publique et on aimerait que les citoyens se saisissent de ces données-là pour pouvoir participer au débat public et se mobiliser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette réforme, elle touche à un système qui a fait ses preuves, qui a sorti les retraités de la pauvreté. Je suis convaincu qu'on peut maintenir un système qui me permette d'avoir une retraite. Et l'objectif, c'est que ce système, il reste solidaire, il comprenne l'ensemble de la société et il permette un niveau de vie décent pour l'ensemble des retraités.
Cyril, lui, est juriste dans une entreprise d'agroalimentaire, mais les salariés du privé restaient peu nombreux hier.
Il ne faut pas opposer public et privé. On est tous dans le même bateau. Après, il faut voir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société avec des riches et des pauvres ou une société solidaire?
Lui s'inquiète d'un futur où les retraites décentes seraient réservées à ceux qui pourront s'offrir des complémentaires privés. C'est aussi ce que dénonce le docteur Caroline Acoucombe. Elle travaille à l'hôpital Saint-Louis et a d'abord participé à l'autre manifestation du jour, celle des personnels hospitaliers, avant de rejoindre le cortège des retraites.
Moi, je suis venue pour la défense du service public de façon large. Je pense que c'est un tout, c'est-à-dire si vous voulez dire aux gens qu'effectivement, il ne va plus y avoir et de sécu et de retraite et qu'il faut qu'ils capitalisent pour la retraite et qu'ils payent une assurance privée pour la mutuelle. Bon, voilà, c'est le même discours, tout ça va bien ensemble.
Dans la rue, beaucoup se disaient prêts à revenir manifester.
Reportage à Paris où le cabinet Occurrence a compté 72 500 manifestants, un chiffre légèrement plus faible que celui de la préfecture de police. La CGT, elle, estime que 350 000 personnes se sont mobilisées dans la capitale. On le disait, pour tenter de sortir du conflit social, le Premier ministre Édouard Philippe recevra à nouveau les syndicats aujourd'hui. Le gouvernement veut éviter des blocages dans les transports à Noël. Aujourd'hui, un TGV sur trois circule. À Paris, 8 lignes de métro sont toujours totalement fermées. L'audience s'est poursuivie hier à Paris au procès en appel des époux Balkany, condamnés en première instance à 4 et 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Isabelle Balkany y était seule, son époux est toujours hospitalisé. La première adjointe au maire de Levallois-Perret qui a une fois de plus animé les débats avec un aplomb phénoménal. Florence Turm suit ce procès pour France Culture.
Les rappels à l'ordre de la présidente n'y changeront rien. Isabelle Balkany s'indigne, s'agite, coupe la parole au magistrat, rit de ses propres réparties, cherche l'approbation d'un public absent, en profite pour asséner quelques piques aux journalistes. Accusée avec son époux d'avoir éludé près de 3 millions d'euros d'impôts sur le revenu entre 2009 et 2014, elle reconnaît aujourd'hui une erreur, une faute, une infraction. J'ai fait beaucoup de sémantique, glisse-t-elle à tout propos avec une certaine fierté. Pendant des années intervient la présidente, vous déclarez entre 50 000 et 70 000 euros par an, alors que vous en versez 68 000 à vos salariés. La prévenue lève les yeux au ciel. Qu'on vienne me dire que mes dépenses sont supérieures à mes revenus, c'est une évidence du bon Dieu, la résurrection de la palisse. Oui, mon mari et moi sommes nés avec une cuillère en argent dans la bouche, poursuit Isabelle Balkany. Elle se redresse. Nous avons assuré notre train de vie avec notre capital. Elle continue en revanche à nier être propriétaire du riad de Marrakech et jamais assumer le paiement du personnel, questionne l'avocate générale. Riposte immédiate, non, puis digression moqueuse sur les gendarmes venus perquisitionner le moulin de Giverny avec un chien renifleur qui n'a trouvé que deux pièces dans un flipper, s'exclame-t-elle dans un éclat de rire. Tout ça est tellement absurde, les bras m'en tombent. Isabelle, asseyez-vous, finit par lui intimer son propre avocat.
Et les réquisitions sont attendues aujourd'hui.
Vous écoutez Les Matins sur France Culture et c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Vous nous emmenez maintenant, Margot, aux États-Unis.
La Chambre des représentants doit voter en fin d'après-midi sur l'impeachment du président américain. Donald Trump devrait être mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès moins de 3 mois après l'explosion du scandale ukrainien. Il est soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations compromettantes sur son rival politique Joe Biden. Ce vote ouvrira la voie à un procès en destitution au Sénat. Dans l'histoire des États-Unis, seul le président Johnson à la fin du 19e siècle et Bill Clinton en 98 ont été sous le coup d'une telle procédure. Alors hier soir, l'actuel président n'a pas manqué de réagir.
C'est une imposture totale. Depuis le début, tout le monde le sait. Je n'ai jamais vu le Parti républicain aussi uni. On aura 100% des élus républicains avec nous. Ce sera pareil au Sénat. Tout le monde dit que c'est une escroquerie, une chasse aux sorcières. Ça fait presque 3 ans que ça dure. Ça a même probablement commencé avant que je remporte l'élection. Franchement, c'est une honte. Ils ont pris ce coup de téléphone parfait avec le président ukrainien pour mettre en accusation le président des États-Unis. Vraiment, quelle honte pour notre pays. Je vais vous dire une chose. À l'avenir, les futurs présidents devront vivre avec une telle menace. S'ils sont un peu impopulaires ou un peu trop forts, même s'ils ont raison à 100%, il y aura ça. J'ai accompli un boulot formidable. Personne n'avait fait ça dans ces 3 premières années.
Donald Trump, dont nous reparlerons plus longuement dans la revue de presse internationale à 7h35. Emmanuel Macron a téléphoné hier au nouveau président algérien. Il a adressé ses chaleureuses félicitations à Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre dernier, d'après la présidence algérienne. Le pays est secoué depuis le début de l'année par un mouvement populaire de contestation du régime. Le scrutin était marqué par un taux d'abstention record. Pendant ce temps, Karim Tabou, homme politique d'opposition en Algérie, est toujours en détention provisoire. Une demande de liberté doit être examinée aujourd'hui. Karim Tabou, incarcéré depuis fin septembre, et il n'est pas le seul. Depuis le mois de juin, environ 200 personnes sont en prison. Beaucoup d'entre elles attendent toujours leur procès. À Alger, la correspondance de Leïla Berato.
Ce mercredi, plusieurs tribunaux d'Alger examineront les dossiers de personnes incarcérées dans des affaires liées au mouvement de protestation. À Dar El Beida, c'est Fodil Boumala, militant politique, habitué des plateaux de télévision, qui sera présenté au juge alors qu'il est en détention provisoire depuis plus de 3 mois. À Hussein D, c'est un vieil homme, arrêté lors d'une manifestation au mois de septembre, qui sera auditionné pour la première fois. Si la détention provisoire est plus rare dans le reste du pays, à Alger, la justice en a régulièrement fait usage depuis le mois de juin. Ainsi, 2 militants de l'association Rage, arrêtés le 4 octobre, n'ont comparu qu'hier. Les manifestants sont accusés d'atteinte à l'unité nationale, d'atteinte au moral de l'armée ou encore d'incitation à attroupement. Alors que les premières arrestations ont eu lieu fin juin, ce n'est que le 1er novembre que 20 manifestants ont été condamnés pour la première fois à 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour atteinte à l'unité nationale. Même quand les procès ont lieu, le verdict peut être repoussé de plusieurs semaines. Les collectifs de soutien et la Ligue des droits de l'homme dénoncent désormais une utilisation abusive de la détention provisoire.
Leïla Berato. PSA et Fiat Chrysler pourraient annoncer leur mariage ce matin avant l'ouverture des bourses de Milan et Paris. La nouvelle entité compterait 400 000 salariés et deviendrait le numéro 4 mondial du secteur automobile avec plus de 8,5 millions de véhicules vendus. La journée d'hier était la plus chaude jamais mesurée en Australie avec une moyenne des températures maximales qui s'élève à 40,9 degrés d'après le bureau de météorologie. Celui-ci s'attend à ce que cette valeur soit encore dépassée. Le pays subit une vague de chaleur qui attise des feux de forêt dans l'Est. En France, ce matin, 2 départements du Sud-Ouest sont toujours en vigilance orange pour des risques d'inondation, la Charente-Maritime et les Landes. Le temps sinon sera pluvieux aujourd'hui sur le Sud-Est et la Bretagne. Ailleurs, le ciel sera très nuageux, quelques flocons attendus sur les Alpes. Les températures maximales sont de 8 degrés à Lille, 10 à Paris, Brest et Strasbourg, 14 à Bordeaux, 15 degrés à Lyon et 18 à Marseille, Guillaume.